Afin de répondre à certaines problématiques, parc de logements énergivore, population modeste, besoin de logement, la mairie de Lisle-Dieu conduit des actions en matière d'amélioration de l'habitat. C'est pourquoi la commune a ouvert un guichet unique pour la rénovation de l'habitat. Pour en parler aujourd'hui, Bruno Nourry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Lisle-Dieu.
Oui.
Michel Chereau, bonjour.
Salut Roland.
Vous êtes adjoint aux activités économiques et transition énergétique à la mairie de Lisle-Dieu.
Tout à fait.
Laurent Hérault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référent précarité énergétique pour l'association Élise, maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. David Godard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'études à l'association Solia, c'est bien ça?
Effectivement.
Quels sont les objectifs de ce guichet unique pour la rénovation de l'habitat sur Lisle-Dieu, Bruno ou Michel?
En fait, on est parti de différents constats. Tout d'abord, il y avait les groupes Île en Transition qui avaient travaillé dessus en constatant que beaucoup de logements à Lisle-Dieu étaient énergivores, mais aussi beaucoup d'humidité. Parallèlement, en fait, on avait aussi des demandes qui pouvaient aller vers de l'amélioration de l'habitat, parfois sur des personnes âgées, par exemple, changer la baignoire en douche. On a voulu faire cette opération programmée d'amélioration de l'habitat, mais de la coupler aussi avec une plateforme de rénovation énergétique pour avoir un guichet unique, que chacun puisse s'y retrouver, parce que parfois, sur ces demandes entre les crédits d'impôt, les aides de l'ANA, l'Association nationale d'amélioration de l'habitat...
C'est vrai que c'est pas simple.
C'est pas simple, les différentes aides, monter les dossiers, etc., ça peut être complexe, et c'est souvent un frein, et trouver aussi les bons montages financiers. Donc, on s'est dit que c'était aussi une façon d'aider à cette amélioration, de mettre en place ce dispositif pour que chacun puisse s'engager dans ce type de projet.
Ce guichet, aujourd'hui, est ouvert, Michel.
Oui, ce guichet est ouvert depuis le 1er avril. Tout à l'heure, on vous dira déjà un petit peu ce qu'il y en est. J'ajouterai à ce que vient de dire Bruno, c'est qu'on a fait en même temps deux choses. Donc, celle-ci donc démarre le 1er avril, mais on a voulu en même temps, pour être exemplaire vis-à-vis de la population, mettre aussi une partie de financement, de subvention qu'on a pu avoir de l'État, de la région et du département, sur l'amélioration énergétique de la mairie.
Met la main à la poche.
Exactement, c'est-à-dire en fait, la mairie, le bâtiment de la mairie, que vous avez pour l'instant, elle est fermée parce qu'il va bientôt y avoir des travaux qui vont être faits. Ben, les travaux, c'est aussi une amélioration énergétique, c'est-à-dire cette mairie, elle était aussi une vraie passoire énergétique, comme beaucoup de nos maisons qui ont plus de 15 ans d'âge. Et donc, on a mis une partie des subventions qu'on a pu avoir et des financements de la commune sur la mairie, et la même chose, une partie de subventions et des financements de la commune pour aider les particuliers. Donc on fait bien deux opérations. Elles auraient dû normalement se passer directement en même temps. On a un tout petit peu de retard pour la mairie, mais ça va venir.
Laurent Hérault de l'association Élise, quel est votre rôle dans ce guichet unique sur Lisle-Dieu?
Alors c'est avant tout un rôle de référent technique, donc ça se déroule de la manière suivante. Nous recevons les particuliers lors des permanences de rendez-vous dans les locaux du pôle économique. C'est sur rendez-vous, donc il suffit pour chaque particulier de nous contacter au 02 51 08 82 27 dans nos locaux de La Roche-sur-Yon, de fixer un rendez-vous, et puis les particuliers sont reçus pour une première phase de conseil technique, et puis une première approche financière pour financer les travaux. Dans un second temps, nous nous déplaçons directement au domicile des demandeurs. Et puis ensuite vient l'association Solia. Et je laisse la parole à David pour
David
le complément.
David Godard, votre rôle, qui est complètement différent de celui de Laurent Hérault.
Alors, il y a un rôle qui va être le même, c'est le rôle de conseiller technique. L'association Solia va intervenir principalement sur tout ce qui va être les travaux d'adaptation du logement.
Pour notamment le handicap.
Notamment le handicap.
Comme disait Bruno, pour les douches.
Ça peut être les douches, le maintien à domicile, ça peut être des accès, des rampes, des ascenseurs.
Ah oui, c'est très vaste tout de même.
Ah, ça peut être l'aménagement extérieur pour le parking du véhicule à son logement. Donc c'est vraiment l'adaptation du logement au sens large pour le maintien à domicile. Ça peut être suite à un accident de la vie ou à perte d'autonomie liée à l'âge.
Qui peut faire appel à vos services ?
Tous les particuliers sont reçus, quel que soit leur revenu, il n'y a pas de condition de revenu. À partir du moment où un particulier a une problématique ou une demande, un besoin au sujet de son habitat, que ce soit donc, pour le rappeler, que ce soit sur l'énergie, les énergies renouvelables, l'adaptation handicap, tout besoin sur le logement.
Particulier, privé et public, vous aidez aussi tout ce qui est public ?
Le dispositif est avant tout destiné aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs également, et on intervient pour, pourquoi pas, des commerces avec logement, et voire même des locataires.
Oui, parce que c'est pas simple tout de même de s'y retrouver dans toutes ces aides.
Ben justement, c'est bien pour cette raison qu'on a voulu qu'il y ait ce guichet unique. Alors, c'est un peu une première en Vendée, c'est-à-dire que là, même s'il y a deux associations qui en fait participent conjointement, n'empêche que pour les habitants de l'Île-Dieu, eux, ils ont un numéro de téléphone, ils ont une date de rendez-vous, un lieu au pôle économique, et tout est gérer un peu directement pour leur faciliter la tâche, que ça soit le plan technique, que ce soit le plan financier, que ça tous les domaines, c'est bien un guichet unique. Donc les personnes qui ont un souci, là, quand on dit un souci par rapport à logement sur le plan énergétique, ça veut dire une maison où il fait froid, où on n'arrive pas à réchauffer,
où il fait trop chaud,
où il fait trop chaud l'été, où il y a des courants d'air et oui, qui coûte cher à chauffer, c'est tout ça qui compte.
Et aussi de l'amélioration de l'habitat aussi pour, on disait tout à l'heure, des personnes en perte d'autonomie pour améliorer les choses. Mais c'est vrai que les différentes aides, on peut s'y perdre et ça peut être complexe. Et le fait de coupler les deux, c'est effectivement une première en Vendée, hein, donc rénovation énergétique, mais aussi amélioration de l'habitat, parce que c'est intimement lié et bon, ça s'est fait ailleurs en France et je pense que c'est une belle façon aussi de voilà d'accompagner les gens et de leur faciliter la vie sur ce genre de projet.
Ce guichet unique existe déjà à Saint-Gilles ou à Pouzauges.
Oui, là, ça a commencé aussi, oui.
Comment, vous nous l'avez dit rapidement, Laurent Hérault, comment sont accompagnés les propriétaires qui veulent faire rénover leur logement ?
Alors, dans un premier temps, avant même le rendez-vous, on leur envoie, on leur transmet un questionnaire, une fiche de contact qu'ils complètent au mieux et qu'ils apportent le jour du rendez-vous avec d'autres éléments, un maximum d'éléments, que ce soit le plan de l'habitation, les devis, les factures d'énergie. Et lors du premier entretien, donc dans le pôle économique, on retrace la vie du bâtiment, sa performance. On identifie déjà les premiers points faibles d'après un déclaratif du demandeur.
Du propriétaire.
Et donc, si vraiment le propriétaire souhaite s'engager dans des travaux, là, du coup, c'est ce que je disais dans un premier temps, on se déplace à domicile pour, en effet, préciser tous les paramètres du logement, identifier tous les points faibles, qu'ils soient énergétiques ou autres, hein, d'humidité, de radon éventuellement, de défaut de ventilation, il y a plein de thématiques. L'idée étant, c'est de rédiger un rapport de visite, de diagnostic du bâtiment, qui fasse état de tous les points faibles et comment les corriger et comment les financer.
Comment les financer, ça c'est vraiment le point primordial.
Donc ça va être la deuxième étape. La première étant le diagnostic conseil. La deuxième étape, ça va être l'accompagnement au projet. Donc définir avec le particulier le projet le plus adapté à ses envies.
Par exemple, le changement de fenêtre.
Voilà. Là, c'est besoin économique aussi, parce que du coup, il souhaitait remplacer une fenêtre et on va l'inviter. On est toujours dans l'incitatif, donc c'est in fine les personnes qui décident. Mais l'idée de les pousser à faire un maximum de travaux cohérents par rapport à leur projet et leur style de vie dans le logement, tout en regardant l'enveloppe financière et en allant chercher un maximum de subventions pour les aider à faire au mieux.
Ces rénovations, ça peut devenir un gouffre financier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Nullement.
Nullement, expliquez-nous. Expliquez-nous, David.
Une rénovation n'est jamais un gouffre financier, c'est un investissement financier, par contre, qui peut être très conséquent. Donc, c'est toujours l'idée de regarder en fonction des capacités de la personne, notamment économique, de ses capacités physiques, elle peut être amenée à faire une partie des travaux, à phaser les travaux. C'est toujours l'idée de l'accompagner au mieux en fonction de ses besoins et de ses envies et des besoins du logement. Parce que des fois, on va se retrouver sur des logements qui ont des désordres importants et qu'il va falloir résoudre avant d'envisager de faire une belle salle d'eau.
La personne ne peut pas faire ses travaux elle-même. Il faut faire vraiment obligatoirement appel à un professionnel.
Alors, ne sont subventionnables que les travaux réalisés, un petit clin d'œil aux artisans, fournitures et poses par des entreprises professionnelles.
RGE ?
Il va falloir que les entreprises, à terme, soient toutes labellisées RGE. Deuxième clin d'œil.
Pour les artisans, c'est un sacré travail.
Alors, RGE, je traduis.
J'allais dire.
C'est reconnu garant de l'environnement.
Mais ça, pour les professionnels, c'est aussi un vaste travail.
Mais c'est une certaine démarche, effectivement.
Assez longue, à première vue.
Assez longue. Donc là, nous aussi, on a travaillé avec les professionnels pour qu'ils aient cette labellisation, au moins ceux qui souhaitent faire ce type de chantier.
Il y a déjà beaucoup d'entreprises ILES qui sont labellisées RGE ?
Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Et l'idée, c'est d'en avoir plus, parce que là, sur cette plateforme mixte amélioration de l'habitat, rénovation énergétique, il va y avoir beaucoup de dossiers, donc beaucoup de projets qui vont sortir. Donc c'est un investissement aussi pour les entreprises qui peut être intéressant d'aller sur ce type de compétences.
Michel.
Oui, je voudrais ajouter, c'est que parfois, les entreprises nous disent qu'on les a réunies déjà un certain nombre de fois. Et elles viennent plus ou moins nombreuses. Il y a des fois, il y en a eu beaucoup de monde, puis il y a des fois, il y en a eu nettement moins. Et je crois qu'il faut comprendre qu'elles nous disent souvent « Oui, mais là, j'ai déjà mon carnet de commandes plein, etc. etc. » Oui, mais il faut savoir que cette opération que nous lançons de guichet unique, on vise à peu près de l'ordre de 300 maisons à améliorer.
À rénover sur les lieux.
Oui, en fait, exactement 292 en 3 ans. Mais on pourrait encore renouveler après pendant 2 ans, ça pourrait faire 5 ans. Et si les entreprises de lieux ne prennent pas ce marché-là, okay, qui est marché en devenir, parce que à terme, vraisemblablement, beaucoup des subventions attribuées ou des défiscalisations ne seront attribuées que si les travaux sont faits par des entreprises RGE. Donc, si les entreprises de l'IDE ne répondent pas, forcément, il va y avoir appel à des entreprises du continent.
C'est déjà le cas.
Oui, c'est déjà le cas, mais d'autres vont venir et progressivement, le marché risquerait d'être pris par des entreprises du continent. Il faut absolument, pour qu'on maintienne l'activité de nos entrepreneurs, de nos entreprises, qu'elles se mettent aussi à disposition pour une partie de leur carnet pour des rénovations qui seront proposées dans le cadre du guichet unique.
Il y a certaines entreprises qui disent que ça coûte cher, que c'est long à mettre en place. Long.
Alors oui, je voulais revenir sur la notion de gouffre financier que vous avez évoqué tout à l'heure.
Oui.
Le gouffre financier, ce serait de ne rien faire justement. Ce serait un gouffre financier pour le particulier de ne rien faire, puisqu'on sait très bien que les énergies, le coût des énergies, quelles qu'elles soient, augmente fortement et vont continuer d'augmenter. Ce serait également un gouffre financier pour l'État qui, tous les ans, importe de l'énergie à un prix fort de nos voisins. Donc, c'est le moment d'intervenir sur les bâtiments le plus rapidement possible, de façon la plus complète, parce que à la fois vous avez des organismes d'accompagnement, vous avez des politiques publiques, notamment de la ville, mais également des aides financières.
Mais pour des personnes, il y a des personnes financièrement qui ne peuvent pas faire ces rénovations. Alors, il y a toujours un moyen.
L'objectif étant de
David Godard.
L'objectif étant de trouver toujours un moyen pour que les personnes puissent faire les travaux qui, à minima, leur permettent d'obtenir un logement qui soit décent, dans lequel elles puissent vivre décemment et économe en énergie. On n'oblige rien, sauf sécurité pour la personne, à faire une rénovation globale. L'objectif, c'est de trouver l'équilibre entre les travaux qui sont bons de faire et les fonds que je peux y mettre.
C'est pour ça que vous faites un bilan.
C'est pour ça qu'on fait un bilan, on a des projections, des scénarios, et on va voir vraiment avec le particulier quel est le projet le plus adapté et qui rentre dans le plan de financement, avec l'ensemble des aides mobilisables. Et aujourd'hui, grâce à ce dispositif, on a des aides qui viennent de divers partenaires qui sont très importantes.
Mais si la banque dit non, vous pouvez rien faire, vous, de votre côté.
Alors, du coup, il y a bien sûr un moment, il y aura un reste à charge. Sur chaque projet, il y a un reste à charge. Aujourd'hui, les finances...
Un reste à charge de combien? Est-ce qu'on peut le savoir?
Alors, pour ça, il va nous falloir des devis, des artisans, de préférentiellement locaux.
RGE, on rappelle.
RGE. Une fois qu'on a ces devis, on peut évaluer très précisément à l'euro près combien va coûter le projet. Et du coup, l'ensemble des subventions, des diverses subventions que toucheront les particuliers, et du coup, le reste à charge. Donc, c'est sur ce reste à charge qu'on va travailler, voir si la personne possède ce fonds, si elle peut l'avoir au niveau familial, des amis, au niveau des banques, des prêts. Et là, du coup, on va accompagner la personne aussi là-dedans.
Michel Chabot.
Oui, ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport aux personnes qui ont des limites financières relativement faibles, il faut savoir aussi que dans le groupe de travail, dans le groupe un peu de suivi, le groupe qu'on appelle le comité technique, participe aussi le CCAS. Et donc,
le Centre communal d'action sociale.
Centre communal d'action sociale, merci. Et donc, s'il y avait un souci vraiment, enfin, pour une personne qui serait vraiment en difficulté, le CCAS peut à ce moment-là aussi avoir des moyens complémentaires qui ne sont dédiés à ce moment-là qu'à des personnes qui sont vraiment en grande difficulté financière. Donc, je dirais, toutes les solutions sont vues, quoi, par rapport à ça.
Combien de temps entre la prise de rendez-vous et les premiers travaux, Laurent ou David?
Alors, ça peut aller très vite à partir du moment où le projet est relativement simple et bien cadré, bien mené, et que les artisans sont...
Qu'est-ce que vous appelez un projet simple?
Un projet simple, c'est lorsque les travaux sont relativement faciles à faire, comme par exemple l'isolation des combles sur des maisons basses, le changement d'ouverture. Après, on est tributaire de toute façon de la fourniture des matériaux, de la disponibilité des artisans qui sont bien complets en termes de charges actuellement. Par contre, inversement, à la fois sur des travaux complets, donc une grosse rénovation de la maison, et puis avec peut-être des financements un peu compliqués à réunir, là ça peut prendre plusieurs mois. Hein. De toute façon, on est là normalement pour à la fois vous accompagner techniquement, oui, et sur la partie financement, on est là également, l'organisme, l'association Solia sera là également pour suivre le dossier et faire en sorte qu'il soit le plus réduit en temps, en délai.
David Godard, est-ce que vous accompagnez les personnes, voir le banquier, pour expliquer le projet au banquier avec la personne? Ou pas du tout, c'est pas votre rôle?
Alors aujourd'hui, notre rôle est d'accompagner la personne sur son projet au niveau technique principalement, et au niveau administratif, suivi financier. Par contre, l'association n'a pas vocation dans ce projet-là, sur le guichet unique, à accompagner, à aller voir la banque avec la personne. Toutefois, c'est vraiment l'idée d'avoir un accompagnement au cas par cas. Si tout d'un coup, on a une urgence, eh ben, on squeezera la partie administrative du premier rendez-vous pour aller voir directement la personne, déposer un dossier en urgence afin que les travaux puissent être réalisés via les subventions. Il y a toujours des conditions sur les subventions. Donc. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui l'ensemble des personnes de l'île et de résoudre l'ensemble des problématiques. Une personne qui a une question sur un devis parce qu'elle le trouve anormalement haut ou qu'elle ne comprend pas, elle prend rendez-vous et elle vient nous voir. Une personne qui accompagne son voisin pour des travaux d'amélioration de l'habitat général ou d'électricité, elle contacte le guichet unique.
Si les travaux se passent mal, est-ce qu'il y a un recours?
Alors, à quel niveau? Au niveau du chantier?
Au niveau du chantier, après avoir la remise des clés ou la fin des travaux.
Donc, toujours dans cette idée d'accompagnement global, nous, les deux associations, on va avoir un regard sur les devis qui sont fournis pour qu'ils correspondent au projet.
Mais à la fin des travaux,
et
vraiment.
Si pendant les travaux ou à la fin des travaux, là, du coup, c'est la personne, le maître d'ouvrage, qui a signé un devis avec l'entreprise. Donc, nous, on vérifie que le devis soit complet et cohérent. Pour autant, c'est un engagement des deux parties, donc maître d'ouvrage, le propriétaire, le particulier, et l'artisan. Donc là, s'il y a un dilemme, nous, on sera là pour faire de la médiation tant qu'on peut être dans la médiation. Si on part dans le juridique, là, on sort du cadre et du coup, on n'est plus dans le cadre du guichet unique.
Ça vous est déjà arrivé, Laurent ou David, ce type de problème? Après des rénovations, un souci avec l'entrepreneur?
Oui, mais en l'occurrence, ça n'a pas de lien direct avec le dispositif actuel de guichet unique. Hein. De toute façon, on est sur un chantier comme partout en France, c'est-à-dire que
vous avez
le maître d'ouvrage qui, lui, est responsable de son chantier, le professionnel qui est assuré avec sa décennale. C'est souvent entre ces deux parties que ça se... ça se résout. Après, il peut y avoir donc un souci justement d'entente. Et donc, dans ce cadre-là, il peut y avoir des interventions tierces de médiateurs, voire même, pourquoi pas, des experts en litige immobilier, pourquoi pas.
Ouais. David Godard.
Le gros intérêt de la rénovation via le guichet, c'est le fait d'en amont boucler un maximum et cadrer le projet. Du coup, on cadre aussi les
devis. Pour pas avoir de mauvaises surprises.
On minimise les surprises. Je pensais justement, le fait de cadrer, le label RGE, reconnu garant de l'environnement, permet aussi aux particuliers d'avoir une sécurité à ce niveau-là, parce que ce label, entre autres, ça oblige les professionnels à avoir une conscience dans le travail qu'ils réalisent.
RGE, c'est une garantie en plus.
Voilà. Mmh.
Avez-vous déjà des dossiers en cours et pour quel type de rénovation?
Je crois qu'il y en a 11 actuellement, donc c'est un bon démarrage.
Pour quel type de travaux?
Du coup, il y a un peu tout type de travaux. Ça va de la simple remplacement d'une chaudière à des travaux beaucoup plus conséquents. Hein. On a des rénovations complètes, c'est-à-dire des maisons qui ont été inhabitées pendant quelques temps et des personnes qui viennent habiter sur l'île ou qui l'ont acquise. Et donc là, des travaux complets, c'est-à-dire isolation des murs, des plafonds, changement des ouvertures, moyens de chauffage, ventilation et tout ce que l'on veut.
Les dossiers, pour le moment, ils en sont où?
Pour l'instant...
C'est vraiment la prise de rendez-vous?
Alors, les rendez-vous ont eu lieu et puis quelques visites ont eu lieu. Donc là, on est dans la phase pour les premiers dossiers de rédaction des rapports qui vont être transmis d'ici peu.
Je voudrais dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de bonnes fées qui se sont penchées pour réaliser...
De bonnes fées, expliquez-nous.
Parce qu'en fait, c'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis 2016. Quand même. Il faut quand même mettre souvent énormément de temps entre l'idée qu'on peut avoir et sa réalisation.
Ça fait 3 ans, quoi.
Ouais. Bon, la première bonne fée, Bruno l'a rappelé tout à l'heure, c'est ce groupe de travail, groupe de citoyens qui ont travaillé dans le cadre du projet Île en transition et qui ont eu cette idée de dire mais il faut faire quelque chose pour aider les habitants des lieux à pouvoir mieux maîtriser en fait leurs dépenses en énergie, que ce soit en chauffage, que ce soit en tout genre d'électricité, fuel, etc., etc. Bon, ça c'est la première fée. Ils étaient relativement nombreux. Hein. Ils étaient dans ce groupe-là. Ils étaient à peu près une quinzaine, quoi. Une deuxième fée, ce sont les services de l'État. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc c'était sous Ségolène Royal, donc il y a eu effectivement cette idée de création de plateformes territoriales d'amélioration de l'habitat avec des financements que nous avons pu avoir, que nous avons nous candidaté, et puis nous avons gagné effectivement une partie donc, du financement, pas tout, mais une petite partie déjà pour aider à financer ça. Troisième idée, troisième bonne fée, c'est le département. Parce que le département a dit, ça tombe bien, moi je suis destinataire des financements de l'Association nationale d'amélioration de l'habitat, on peut jouer ensemble, on peut travailler ensemble. Donc le département est une troisième bonne fée. Une quatrième, c'est le SIDEV, donc syndicat départemental d'électricité de la Vendée, qui a dit, on souhaite pousser un petit peu à ce que les gens maîtrisent un peu mieux leur consommation d'énergie. Nous, on veut bien participer à ça. Et enfin, la dernière bonne fée, je crois pas que j'en oublie, si j'en oublie, Bruno me dira, c'est la commune, quoi.
Ouais. Hein,
voilà. Les bonnes fées, ça veut dire que pour ce dispositif, ils vous le donnent de l'argent.
Exactement, Roland, tu as tout compris, C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est financé? Il y a eu d'abord des études, il y a eu deux types d'études, une étude d'opportunité, une étude de faisabilité. Donc, il y a eu deux études qui ont été faites, qui ont été financées là, par les services de l'État, par justement ce que je disais tout à l'heure, là, sur que les financements qu'on a pu avoir de la part de l'État. Et ensuite, il y a les animateurs. Ils viennent sur le lieu avec beaucoup, beaucoup de plaisir parce que c'est toujours très agréable de venir à le lieu, même s'il y a parfois un peu de mauvais temps.
Les animateurs, Laurent Hérault et David Godard.
Exactement, mais il faut quand même les payer et payer leurs associations. Donc là-dessus, le SIDEV d'une part, la commune d'autre part et le département participent financièrement à financer cette animation.
Le SIDEV, c'est 108 000 euros par exemple.
Voilà. Et puis la commune participe aussi bien sûr à l'animation, mais aussi pour inciter les les particuliers qui veulent améliorer, qui veulent mieux maîtriser les énergies qu'ils consomment, électriques ou autres, eh bien, à ce moment-là, la mairie a décidé de financer, d'apporter une petite aide financière pour tout le monde, que ce soit pour tous les travaux, les petits travaux, c'est-à-dire en fait des travaux qui seraient relativement limités, qui respectent les critères du crédit d'impôt.
Qu'on appelle le niveau 1, le niveau 2, grosse rénovation, le niveau 3, rénovation exemplaire.
Voilà, et donc là, l'aide forfaitaire est de 250 euros.
Pour les petits travaux ?
Oui, pour les petits travaux. Pour des travaux de type moyen, qu'on appelle les grosses rénovations, où là, le gain énergétique alors, doit être supérieur à un certain niveau. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce que c'est toujours un peu compliqué. Là, il y a une aide financière de 600 euros. Et enfin, pour les grosses rénovations, exemplaires du type un peu de scène dont parlait tout à l'heure Laurent, là, à ce moment-là, c'est une aide de 50% de l'ensemble des coûts, plafonnés quand même à 4 000 euros.
Ça, c'est pour les propriétaires occupants.
Propriétaires occupants également. Oui.
Les résidences secondaires aussi ont le droit à une petite aide.
Alors, les résidences secondaires, c'est beaucoup plus limité. Simplement, on s'est dit, ce serait intéressant, par exemple, de les aider à financer la rénovation de leur comble, c'est-à-dire qu'ils puissent faire une isolation dans leur comble et aussi sur des chauffe-eau par énergie solaire. Donc en mettant des capteurs thermiques. Alors pourquoi on fait ça ? Mais parce qu'on sait très bien que beaucoup de maisons et résidences secondaires peuvent servir à un moment ou à un autre de résidence principale. Et donc autant à ce moment-là les inciter à faire une meilleure isolation de leur comble, hein, ce qui est la première source en fait de perte d'énergie. Et voilà, donc par rapport à ça, on les aide effectivement financièrement.
Ce service de guichet unique pour la rénovation de l'habitat est gratuit et payant ?
Ah, c'est gratuit.
Ah, ça, c'est gratuit,
c'est plus que ça. C'est gratuit, c'est neutre.
Ah, oui, oui, ça, il fallait le dire depuis le début, oui, bien sûr. C'est justement pris en compte par les différentes bonnes fées dont je parlais tout à l'heure.
Le CITEV, le département, l'État.
Voilà, c'est ça.
Et la mairie.
Et la commune. Et la commune. Bon, on rajoute bien la commune parce qu'effectivement, ça a été voté. Ouais. Et je peux vous dire que sur un dossier comme ça, tous les élus sont favorables, que ce soit la majorité, comme la minorité, on est tout favorable à ce dossier-là. Oui, oui, je pense que toute personne peut venir, c'est gratuit, et les personnes qui le reçoivent n'ont aucun intérêt financier. Je pense que c'est très important.
C'est pour ça que David Godard nous disait que c'est un service neutre.
Neutre commercialement, oui. Mmh, oui, oui. Tout à fait, oui. Oui. Donc, c'est la même chose
pour, oui.
Au niveau sur le plan technique. Notre rôle n'est pas de donner un avis sur un matériau, sur une marque ou sur un artisan, une enseigne, mais de comparer toutes les solutions, libre ensuite aux demandeurs de faire le choix final.
Oui, par exemple, le plastique, le bois, par exemple, pour les fenêtres.
On va évoquer tous ces matériaux-là et puis
l'aluminium.
Tous les matériaux. Oui, mm-hmm. Tous les matériaux. Après, il faut également tenir compte des on va dire, contraintes urbanistiques liées à Lille. Donc tout ça c'est prévu, mais de toute façon le conseil, qu'il soit technique ou financier, il reste désintéressé commercialement.
C'est vrai que le PLU peut être un frein pour ces rénovations, non ? Est-ce que vous êtes d'accord, Bruno ou Michel ?
Pas sur la rénovation en tant que telle. Effectivement, il y a certains secteurs, un panneau solaire thermique pour le chaude sanitaire. Peut-être problématique, mais dans la majorité des cas, ça ne pose pas de problème quand même.
Il y a eu quand même de bonnes avancées en la matière. Les choses sont beaucoup moins rigides que c'est pu l'être à un moment. On a aussi, par exemple, voté la possibilité de faire des isolations par l'extérieur en prenant un peu sur le domaine public, quoi, par exemple, ou aussi d'augmenter un peu la hauteur des toitures pour permettre d'avoir une isolation aussi au-dessus donc du toit. Donc la chose évolue quand même progressivement. Autant il y a 5 ou 6 ans c'était très rigide, autant là. Et s'il y a des problèmes qui sont soulevés, à ce moment-là les animateurs nous feront connaître ces problèmes-là, à charge après à nous de faire évoluer encore les choses.
Avant de se dire au revoir, on peut rappeler Où a lieu ce guichet unique pour les rénovations énergétiques de l'habitat sur l'île de Ré?
Alors, ce guichet unique, l'école de pêche, dans l'école de pêche, il y a le pôle économique. C'est quand vous entrez dans l'école de pêche, sur votre gauche, et c'est fléché.
Et les rendez-vous auront lieu principalement le troisième mercredi de chaque mois, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Et puis, de temps en temps, occasionnellement, le premier jeudi de chaque mois également.
Et on peut vous appeler au 02 51 08 82 27.
C'est ça.
Vous l'avez entendu au cours de cet entretien, l'État, le conseil départemental de la Vendée, le CIDEV et la mairie de l'Île-Dieu sont cofinanceurs de ce guichet. Carole Charbeau, conseillère départementale, et Alain Leboeuf, président du CIDEV, étaient présents sur l'Île-Dieu le 25 avril pour la signature des conventions.
J'ai vraiment voulu faire ce déplacement. Parce que ce que vous êtes en train d'initier, poser et mettre en place est remarquable. Je veux simplement le dire. Donc nous, au niveau du CIDEF, pour nous, il est important qu'on vienne accompagner nos adhérents, que sont les communes ou les communautés de communes. Et dans le cadre des PCAET en particulier, les plans climat, air, énergie territoriaux, on est en train de vraiment essayer d'insuffler et d'encourager les collectivités à penser ces plateformes pour avoir une vraie relation avec finalement nos concitoyens. Donc on encourage ça auprès des communautés de communes, et là ça va être la seule expérience comme celle-ci en Vendée. Votre communauté de communes est la commune.
Ouais.
Et vous avez osé le faire et mettre de l'argent, comme vous venez de le dire, sur le budget du budget communal pour flécher vers cette intention d'aller participer à de la rénovation énergétique. Alors, j'ai préparé deux ou trois idées juste pour vous dire que c'est cet enjeu de la rénovation qu'il a évoqué un petit peu. Pour moi, il est triple. Il est triple. Tu as parlé d'enjeu social, c'est clair, on le voit bien. Ceux qui sont les plus impactés sont souvent ceux qui ont le moins de budget. Et c'est pourtant eux qui vont dépenser le plus, finalement, dans le quotidien, c'est-à-dire pour le chauffage en particulier. Enjeu social, enjeu environnemental. Ouais, je veux dire, quand on est une île, on le sait peut-être encore plus que quiconque, il va bien falloir qu'on fasse attention à notre planète. 30% des consommations d'énergie primaire en France, eh bien, arrivent justement du logement lui-même. Donc on a ici un gisement énergétique vraiment important. Tout le monde le dit, peu s'en préoccupe. Eh bien, vous vous en préoccupez. Et puis le troisième enjeu, ne l'oublions pas, tu l'as un petit peu évoqué, mais j'insiste, c'est un enjeu aussi économique. Parce que toutes les finances qui seront fléchées vers de la rénovation énergétique sont des finances qui seront injectées finalement dans nos entreprises locales. Et j'insiste sur local. Parce que vous savez, quand on lance des fois des grands travaux, bah, c'est des entreprises de je ne sais pas où qui viennent. Là par contre, quand on est dans de la rénovation, ce sont généralement nos artisans locaux qui sont le plus sollicités. Et donc c'est bien favoriser aussi une économie sur le territoire. D'où ce triple enjeu que j'ai envie de rappeler en introduction. Alors, bah, vous le savez, hein, dans la loi de transition énergétique dont on a parlé, l'objectif que les gouvernants s'étaient fixé, c'est 500 000 logements rénovés par an. On n'est pas arrivé là. Mais justement, si on n'apporte pas chacun notre pierre à l'édifice, on sera loin du résultat. La région elle-même, Pays de la Loire, donc c'est fixé 100 000 logements d'ici 2021. Donc, eh bien, vous allez aussi y participer. Et je pense que c'est un bel atout.
Le département, bien sûr, il a déjà des aides, hein, puisqu'il est l'État a délégué ses compétences au travers de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour faire ces aides, en fait. Mais aussi, le département a délivre des aides sur ses fonds propres. Il y a l'éco-pass, enfin, il y a plein d'aides différentes. Mais en fait, ce guichet-là, sur les dieux, eh ben, en fait, c'est pour faire le tri. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment pour aider les gens à faire... D'abord, je pense que les associations-là, elles vont d'abord voir s'ils sont recevables, en fait, pour avoir ces aides. Et puis, ils vont aussi visiter la maison. Et ça, c'est... Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ils vont voir vraiment quel type de rénovation est à faire. Par exemple, si on change les fenêtres sans que le toit soit isolé, ben ça sert à rien, quoi. Donc, en fait, ils ont vraiment un œil professionnel. Comme disait Alain Leboeuf, il n'y a pas d'enjeu, ils ne sont pas intéressés. Donc ça, c'est super important. Et donc, le département, je crois qu'il a tout à gagner à valoriser ce genre d'initiative. Parce que c'est vraiment dans sa mission sociale pour aider les plus modestes.
Bruno Nourry, merci beaucoup de toutes ces informations. À très bientôt.
Merci Roland, à bientôt.
On rappelle, vous êtes le maire de l'Île-Dieu. Michel Chouard, merci beaucoup.
Je t'en prie Roland.
On rappelle, vous êtes adjoint aux activités économiques et transition énergétique à la mairie de l'Île-Dieu. Laurent Hérault, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Vous êtes référent précarité énergétique pour l'association Élise. David Godard, merci beaucoup.
Merci, je voulais juste en profiter pour dire à tous les habitants que c'est une réelle opportunité et que là, il y a un choix politique qui a été fait, donc il y a des fonds, et qu'ils n'hésitent pas à en abuser.
Ça sera le mot de la fin. On rappelle, vous êtes chargé d'études pour l'association Solia. À très bientôt.